Il est 8h sur France Culture. Et voici le journal présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le corps retrouvé hier dans la Loire est très probablement celui de Steve Maya Canisso, selon le parquet et l'avocate de la famille. Ce jeune homme avait disparu après une opération de police le soir de la fête de la musique en juin dernier à Nantes. Nous reviendrons sur les faits dans un instant.
Nous détaillerons ensuite les nouvelles informations concernant la gestion très spéciale de la sécurité d'Emmanuel Macron par Alexandre Benalla, qui effectuait notamment de nombreux paiements en liquide.
Mais où sont les élus du parti Les Républicains? Ils se cherchent sans se trouver. Mouvement éclaté, idée à recentrer ou non. Nous ferons le point à moins d'un mois de la rentrée politique.
Dans ce journal également, nous irons au Brésil où un chef indigène a été poignardé à mort par des orpailleurs. Illustration du mépris du président Jair Bolsonaro pour cette population.
Et puis nous irons en Turquie où un mathématicien est accusé d'appartenir à une organisation terroriste. Il travaille à l'université Lyon 1. La mobilisation régionale s'était très vite étendue à toute la France. Affaires policières, juridiques, politiques même, pour retrouver Steve Maya Canisso, un jeune animateur nantais de 24 ans, disparu le 21 juin dernier, le soir de la fête de la musique. C'était après une intervention policière. Son corps a peut-être été retrouvé hier dans la Loire, non loin du lieu de la fête. L'autopsie doit avoir lieu ce matin, mais déjà, l'avocate de la famille de Steve Maya Canisso s'avance, maître Cécile de Oliveira.
Le corps a été retrouvé au bord de Loire, dans le centre de Nantes, près d'une grue, un endroit qui est extrêmement fréquenté par les Nantais et par la jeunesse. Les premiers éléments d'identification, qui ne sont pas des éléments d'identification médico-légale, permettent de penser qu'il s'agit probablement du corps de Steve Canisso.
Une autopsie doit donc encore le confirmer ce matin. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour.
Cela mettrait fin à plus d'un mois de recherche, Antoine, et de polémique.
Alors cela mettrait fin aux recherches, mais pas à la polémique qui enfle depuis le 21 juin. Le contexte, la fête de la musique sur l'île de Nantes, des jeunes qui profitent entre amis du lieu et de l'ambiance, l'alcool qui coule à flot. On est à quelques mètres des quais sur les bords de la Loire, la musique techno joue à fond. Et puis vers 4 heures du matin, extinction des feux, comme prévu. La foule exprime son insatisfaction, la musique reprend. Et c'est là que les forces de l'ordre interviennent. Selon elles, elles reçoivent des projectiles de fêtards hostiles. Et tout va très vite. Les témoins évoquent une charge et des gaz lacrymogènes. Une dizaine de personnes se retrouvent à l'eau, car le problème, c'est qu'il n'y a pas de parapet sur ce qu'est Wilson. Dans la confusion, aveuglés par les gaz, des participants se sont jetés dans la Loire. La plupart d'entre eux sont repêchés par les pompiers, sauf Steve Maya Canisso, qui ne donne plus signe de vie depuis. Ses proches affirment qu'il ne savait pas nager. Si c'est bien son corps qui a été repêché, l'autopsie va devoir tenter de déterminer les causes du décès et s'il est lié à l'intervention des forces de l'ordre. Mais déjà, Steve Maya Canisso est devenu le symbole des violences policières. De nombreuses pancartes demandent « Où est Steve ?». Elles s'affichent dans les rues de Nantes et d'ailleurs. Une fresque faisant le portrait du jeune homme a été peinte sur le mur d'un vaste hangar. Et le 20 juillet dernier, des centaines de manifestants s'étaient rassemblés, formant une chaîne humaine le long de la Loire, puis observant une minute de silence, les bras levés. « Où est Steve ?» et « Justice pour Steve » avait scandé la foule à plusieurs reprises.
Merci beaucoup Antoine Maret, spécialiste police-justice à France Culture. Je précise qu'au total, 5 procédures sont en cours, dont une plainte de policiers blessés pendant l'intervention le 21 juin dernier et une autre plainte de 89 participants à la soirée, cette fois pour mise en danger de la vie d'autrui. Au chapitre encore des affaires devenues judiciaires, de nouveaux éléments à charge contre Alexandre Benalla ont été dévoilés hier par le quotidien Le Monde. Cette fois, il s'agit de la manière dont l'ancien chargé de mission de l'Élysée aurait géré la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Certaines dépenses auraient échappé au contrôle de la commission des comptes de campagne, Sophie Delpont.
Selon cette enquête, Alexandre Benalla, alors chef de la sécurité du candidat Emmanuel Macron, aurait effectué plusieurs paiements en liquide pour rémunérer des agents de sécurité. L'un d'entre eux affirme même avoir assisté à une distribution de billets pour 10 personnes après un meeting à Lyon en février 2017, sans laisser aucune trace dans les comptes de campagne. Contacté par le journal Le Monde, Alexandre Benalla dément avoir versé des rémunérations en liquide. Le quotidien affirme également qu'une partie du personnel de sécurité n'aurait pas été déclarée à la commission. commission des comptes de campagne lors d'un meeting porte de Versailles en décembre 2016. Le remboursement des notes de frais aussi pose problème. Le Monde met en avant les difficultés rencontrées par d'anciens membres du service d'ordre du candidat Macron. Dans un échange sur la messagerie WhatsApp, l'un d'entre eux se plaint à Alexandre Benalla d'avoir payé plus de 700 euros de sa poche. Et ils sont plusieurs à affirmer qu'Alexandre Benalla les remboursait en liquide, là aussi, mais cette fois à partir d'un compte bancaire personnel. Alors comment ce compte aurait-il été alimenté? Une piste apparaît à travers les Macron Leaks, l'énorme fuite de documents survenue en avril 2017, parmi lesquels Alexandre Benalla aurait demandé une avance de 5000 euros pendant la campagne. Certains agents enfin déclarent avoir finalement renoncé à se faire rembourser plusieurs centaines d'euros. On nous a expliqué que nos justificatifs étaient dans des cartons au QG de campagne et que ces cartons avaient été perdus lors du déménagement vers le siège du parti, déclare l'un d'entre eux cité par le journal. S'étonnant au passage que seuls ces documents aient pu être égarés.
Nous sommes en train de nous habituer à l'intolérable. 20 députés bretons de La République En Marche publient ce matin une tribune chez nos confrères de France Info. Un texte pour dénoncer les violences dont ils font l'objet. Menaces, insultes, permanence dégradée. Ces faits se multiplient depuis la ratification la semaine dernière du CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Validation en tout cas des députés français. Des élus de la majorité critiqués, pris pour cible donc, quand ceux du parti Les Républicains à droite cherchent une cible, un socle commun. Deux mois après leur déroute aux élections européennes, les départs s'accumulent, tout comme Rosalie Lafarge, les idées pour refonder la droite classique.
La dernière idée en date vient de Julien Aubert, candidat à la présidence de Les Républicains. Le député veut en finir avec le parti unique pour créer à la place deux mouvements unis au sein d'une confédération. D'un côté, la droite populaire, de l'autre, une droite plus modérée.
Le fait d'avoir tout le monde tenant des discours différents brouille le message et frustre à la fois les électeurs et puis les politiques qui ont toujours l'impression qu'ils sont tenus par une forme de devoir, de modération par rapport à ce qu'ils pensent vraiment, de manière à garder tout le monde dans le bercail. Et comme ça fait 7 ans que nous faisons ceci, eh bien nous avons perdu des deux côtés. Alors je vais vous donner un exemple. Alain Juppé est parti en nous disant qu'il trouvait ce parti trop à droite. Thierry Mariani est parti en nous disant qu'il trouvait ce parti trop à gauche.
Et ils sont plusieurs à avoir quitté le navire ces derniers temps. Après Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse ou encore Laurence Saillé, la porte-parole, Vincent Roger, membre de la direction, a claqué la porte à son tour la semaine dernière, jugeant plus utile de débattre avec Emmanuel Macron que de s'y opposer systématiquement. Les autres, pour l'instant, restent. Mais pour aller où? L'un des cadres du parti, Geoffroy Didier, veut lancer son propre mouvement au sein des LR pour faire émerger une droite moderne. La jeune garde de Les Républicains a fait créer un comité de renouvellement, lui aussi, dans le parti. Le président du Sénat, Gérard Larcher, poursuit son tour de France pour rebâtir un projet pour la droite et le centre. Une partie des troupes prône une alliance avec La République En Marche pour les municipales. Autant de pistes différentes, de nature à faire sérieusement douter ceux qui veulent croire en l'aptitude des LR à reconstruire ensemble les bases d'une famille unie, capable de redevenir une force d'alternance dans le pays.
Certains hôpitaux sont vulnérables aux incendies en France. Ce week-end, le journal du dimanche évoquait l'établissement de la Timone à Marseille. Eh bien, en région parisienne également, les dysfonctionnements existent en matière de sécurité. Ainsi, 20 bâtiments de l'APHP sur les 370 existants, ces 20 bâtiments ont obtenu un avis défavorable de la commission de la sécurité incendie l'année dernière. Les hôpitaux Bichat et Saint-Antoine sont particulièrement concernés. Et ils sont touchés également, ces hôpitaux, par la grève dans les urgences. Hier, 211 services étaient encore à l'arrêt. Le mouvement dure depuis 4 mois et demi maintenant, malgré la promesse d'une prime de risque, promesse faite par la ministre de la Santé Agnès Buzyn au mois de mai dernier. Leur mobilisation aura payé. Les journalistes de Nice Matin ont fait plier l'homme d'affaires franco-libanais Iskandar Safa. Il retire son offre de reprise au profit de Xavier Niel. Un dénouement synonyme de soulagement pour les salariés qui craignaient la réputation sulfureuse de l'homme d'affaires Cédric Hermel.
Si Iskandar Safa dérange, c'est d'abord pour des raisons éditoriales et éthiques. D'abord le fait qu'il soit propriétaire de Valeurs Actuelles, hebdomadaire à la ligne éditoriale proche de l'extrême droite. La deuxième, ce sont ses fréquentations politiques avec le risque d'un changement de ligne éditoriale de Nice Matin, explique Romain Maximovitch, représentant du syndicat national des journalistes à Nice Matin.
Il faut pas nier les proximités locales politiques d'Iskandar Safa dans les Alpes-Maritimes avec le sénateur Leroy ou avec le député Ciotti. Et dans la perspective des municipales, évidemment, cette perspective inquiétait.
Autre raison, le risque d'un plan social. Iskandar Safa prévoyait une réduction drastique des effectifs. 450 salariés sur le carreau. Une possibilité aujourd'hui écartée avec l'entrée de Xavier Niel, le capital du journal.
Maintenant, on sait qui est notre interlocuteur. Les salariés de Nice Matin ne se retrouvent pas entre deux feux. Aujourd'hui, c'est très clair, notre interlocuteur, c'est Xavier Niel ou ses représentants, et on va pouvoir avancer comme ça.
L'entrepreneur est déjà au capital du journal, il deviendra actionnaire majoritaire d'ici l'année prochaine.
C'était Cédric Hermel.
Il est 8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. L'ONU condamne le meurtre d'un chef indigène au Brésil.
Oui, par la voix de sa haut-commissaire aux droits de l'homme. Elle estime même que ce meurtre commis par des orpailleurs est la conséquence du développement de l'exploitation minière en Amazonie. Un développement prôné par le président brésilien Jair Bolsonaro. Le chef indigène Wayapi a en fait été tué dans une zone reculée du nord du pays, Sarah Cozzolino.
Emira Wayapi, 68 ans, venait de rendre visite à sa fille quand il a été poignardé par des orpailleurs, puis jeté dans une rivière. Après ça, une cinquantaine de garimpeiros, des orpailleurs clandestins, ont envahi vendredi le village de cette communauté indigène dans l'état d'Amapá, à l'extrême nord du Brésil. Armés jusqu'aux dents, les orpailleurs auraient forcé les habitants à fuir, selon les indigènes. Il est encore difficile de parler avec précision des faits, une enquête est en cours. Dès samedi, l'événement a mobilisé les défenseurs de l'environnement et de la cause indigène sur les réseaux sociaux, comme le chanteur engagé Caetano Veloso. A l'inverse, le président brésilien est resté indifférent. Il n'y a pas encore de preuves suffisantes, a-t-il déclaré ce lundi matin. Si les membres de tribus amazoniennes doivent faire face depuis longtemps aux pressions des mineurs et bûcherons illégaux, les menaces à leur encontre se sont intensifiées depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Le président brésilien parle ouvertement de légaliser l'orpaillage dans les réserves indigènes. Depuis son arrivée au pouvoir en début d'année, le discours pro-armes et anti-démocratie démarcation des terres indigènes encourage les mineurs à agir avec violence et en toute impunité.
La violence au Brésil encore et cette nouvelle mutinerie dans une prison sur fond de trafic de drogue et de jeux d'influence. 57 détenus sont morts hier dans des conditions particulièrement brutales. Un couvre-feu est en place ce matin dans 4 localités du centre du Soudan. La répression de la contestation y a fait de nouvelles victimes hier. 5 morts, dont 4 lycéens. L'opposition au Soudan appelle à de nouveaux rassemblements près de 4 mois, rappelons-le, après la destitution du président Omar el-Béchir et des négociations qui sont toujours bloquées avec l'armée. Une contestation réprimée, c'est également le cas et nous la suivons régulièrement sur France Culture à Hong Kong contre le gouvernement pro-Pékin. Hier, la Chine, justement, s'est montrée claire. Elle demande à l'exécutif sur place de sanctionner les auteurs de violences et de rétablir l'ordre au plus vite. Il lui est reproché d'avoir participé en France à une réunion de l'opposition turque. Un mathématicien turc, maître de conférence à l'université Lyon 1, est jugé à partir d'aujourd'hui en Turquie pour appartenance à une organisation terroriste. Les faits et son portrait ce matin avec Anand Lauer.
Bien qu'il enseigne en France, le mathématicien Tuna Altınel est un visage connu du palais de justice d'Istanbul. Avant son incarcération, il s'y rendait régulièrement pour soutenir ses collègues, poursuivis pour avoir, comme lui, signé début 2016 un texte demandant l'arrêt des opérations des forces de sécurité dans le sud-est de la Turquie. Dans le cadre de ce procès, Tuna Altınel est jugé depuis fin février pour propagande terroriste. Mais c'est un autre dossier pour lequel il comparaît pour la première fois ce mardi. Cette fois, l'audience ne se tient pas à Istanbul, mais à Balıkesir, dans le nord-ouest de la Turquie. Et le mathématicien n'est plus jugé pour propagande, mais pour appartenance à une organisation terroriste. Une charge beaucoup plus lourde qui lui vaut cette détention préventive. La justice lui reproche d'avoir participé et effectué des traductions au cours d'une conférence organisée à Lyon en février dernier par une amicale kurde qu'Ankara accuse d'être liée au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un groupe classé terroriste. En Turquie comme en France, Tuna Altınel est soutenu par ses collègues et étudiants. Des bus ont été affrétés pour transporter des dizaines de personnes d'Istanbul à Balıkesir, 300 km plus loin. Ses anciens camarades du lycée francophone Galatasaray à Istanbul font aussi circuler une pétition réclamant sa libération et signée à ce jour par plus de 1000 personnes.
C'était Anand Lauer, notre correspondante à Istanbul. Un chiffre maintenant donné à l'instant, 18 400. Le groupe chimique chimique et pharmaceutique allemand Bayer doit désormais affronter 18 400 requêtes déposées aux États-Unis. Des plaintes qui visent l'herbicide au glyphosate de sa filiale Monsanto. Malgré les réticences de l'Union européenne, le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson dit croire à un possible accord sur le Brexit avec l'Union. Il l'a dit en tout cas hier lors d'une visite en Écosse, mais déjà face à lui, la dirigeante écossaise l'a accusé de vouloir une sortie de l'Union sans accord. Nous revenons en France pour quelques mots de météo et attention au vent qui est attendu sur le nord-ouest ce mardi en France. Ce mardi matin d'ailleurs, la circulation des trains des TER est déjà perturbée en Bretagne, avec un ciel gris et des averses prévues de l'Aquitaine jusqu'à la Normandie. Elles se transformeront en orages dans l'après-midi. Ailleurs, le temps sera mitigé, ensoleillé sur le sud. Comptez ce matin 17 degrés à Rennes, Lille et Strasbourg, 19 à Paris, Bordeaux et Lyon, 22 à Perpignan ce matin, puis cet après-midi entre 17 et 31 degrés du nord-ouest jusqu'au sud-est.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.